Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous célébrons aujourd'hui un dogme de notre foi, le dogme de l'Assomption de Notre-Dame, qui a été défini par le pape Pie XII le 1er novembre 1950. Le pape y déclare, je vous le cite, qu'à la fin de sa vie terrestre, la Vierge Marie n'a pas été sujette à demeurer dans la corruption du tombeau, et qu'elle ne dut pas non plus attendre jusqu'à la fin du monde la rédemption de son corps, mais qu'elle a été élevée en corps et en âme à la gloire céleste. Le mot « assomption » vient du latin « assumere », qui veut dire « prendre avec soi ». Notre Seigneur a donc pris avec lui la très sainte Vierge Marie. Il l'a fait venir dans le ciel à côté de lui en corps et en âme. En définissant le dogme, le pape n'entendait pas, bien sûr, ajouter une nouvelle vérité au dépôt de la foi, ce qui est impossible, puisque la révélation est terminée depuis la mort de l'apôtre Saint Jean. Mais le pape déclarait solennellement et infailliblement que cette doctrine de l'Assomption se trouve comprise dans le dépôt de la foi depuis les apôtres, que c'est donc une vérité de foi divinement révélé, et par conséquent, il est nécessaire d'y croire pour être sauvé. Qui pourrait se faire une idée, dit saint Bernard, du triomphe au milieu duquel la reine du monde s'avance aujourd'hui, de l'élan d'amour avec lequel toute la multitude des légions célestes se porte à sa rencontre, des chants avec lesquels on la conduit à son trône de gloire, du visage de paix et de sérénité, des joyeux embrassements de son Fils qui la reçoit et l'élève au-dessus de toute créature avec les honneurs dignes d'une telle mère et la gloire qui convient à un tel Fils. Reine des anges, des patriarches, des prophètes, des confesseurs, des vierges, de tous les saints, c'est-à-dire qu'elle les surpasse tous dans le domaine surnaturel, dans le domaine de la grâce. Mais la couronne que notre Seigneur a déposée en ce jour sur la tête de sa mère n'est-elle que le signe extérieur de sa prééminence et la seule récompense de ses mérites? Pas du tout. Cette couronne signifie aussi et surtout les pouvoirs de reine qui sont ceux de la très sainte Vierge. Alors on peut se demander, bien sûr, quels sont les pouvoirs d'une reine? Si l'on regarde au cours de l'histoire quels ont été les pouvoirs des reines, ils ont été extrêmement variés, ils ont eu plus ou moins d'extension. Mais ce n'est pas tellement du côté de la terre qu'il nous faut regarder, car la très sainte Vierge Marie est une reine tout à fait unique, tout à fait à part. D'abord, elle est tout à la fois l'épouse et la mère du roi, notre Seigneur Jésus-Christ. Elle en est l'épouse, comme tout homme en état de grâce est épouse de notre Seigneur. Mais elle en est surtout la mère. Sa maternité divine est même la source de tous les privilèges de la très sainte Vierge Marie. En donnant sa chair au Fils de Dieu, Notre-Dame permettait à notre Seigneur, qui était déjà roi de tous les hommes en tant que Dieu, de le devenir en tant qu'homme, puisque son humanité étant unie à la seconde personne de la Sainte Trinité, notre Seigneur est le seul parmi les hommes à pouvoir être appelé Dieu. Il est donc par nature, par sa nature humaine unie à la divinité, roi de tous les hommes. Dès qu'elle a prononcé son fiat à l'Annonciation, la Sainte Vierge est devenue la mère du Christ roi, la reine mère. Et surtout à partir du concile d'Éphèse en 431, qui a défini la maternité divine de Notre-Dame, il y a eu un élan parmi les artistes chrétiens, parce que dans les différentes représentations de la Sainte Vierge, bon, il y a la Sainte Vierge au pied de la croix, la Pietà, etc. Il y a aussi la Sainte Vierge montrée dans sa tendresse maternelle vis-à-vis de son enfant. Mais il y a eu tout un élan dans l'art chrétien, à partir du concile d'Éphèse, pour représenter la Vierge Marie assise sur un trône de reine, et nous présentant son fils. C'est ce qu'on appelle les Vierges en majesté, dont le sommet dans l'art a été à l'époque romane, par exemple les Vierges d'Auvergne. On en trouve encore un exemple dans la fresque qui se trouve dans cette église au-dessus de l'autel. C'est une Vierge en majesté sur son trône qui nous présente son fils. Et dans la région, nous avons aussi Notre-Dame de Béhéard qui est représentée de cette manière. Épouse et surtout mère du Christ roi, la très sainte Vierge est encore reine d'une manière unique, dans la mesure où elle a conquis le royaume avec son fils, le Vendredi Saint au Calvaire. Elle a donc été non seulement unie à notre Seigneur dans ce qui l'a fait être notre roi par nature, elle lui a été aussi unie dans ce qui a fait de lui notre roi par conquête. Et ce qui est encore unique, c'est que la très sainte Vierge a été la première sauvée, la première terre conquise par le Christ roi. Lorsqu'en vertu des mérites futurs de la passion de notre Seigneur, et là nous citons le pape Pie IX dans le dogme de l'Immaculée Conception, Dieu l'a préservée de toute tâche du péché originel au premier instant de sa conception. Notre Seigneur l'a donc sauvée en premier pour qu'elle soit sa compagne et son aide dans la conquête des âmes. Et c'est là qu'on découvre les pouvoirs de reine de Notre-Dame. Si l'on essaye de calquer les pouvoirs de Marie-Reine sur ceux d'un roi, on se trompe complètement. La Vierge Marie n'a pas les pouvoirs d'un roi. Elle a les pouvoirs de celle qui est l'épouse et la mère du Christ roi. Le pouvoir propre de la Vierge Marie en tant que reine est alors un pouvoir d'intercession. Et c'est sans cesse à ce pouvoir que la liturgie de l'Église fait appel dans les oraisons, dans les antiennes, l'intercession de Notre-Dame. Mais chez elle, ce pouvoir d'intercession est un pouvoir de reine, parce qu'en raison de sa puissance sur le cœur du roi, notre Seigneur, l'intercession de la Sainte Vierge est souverainement efficace, plus que l'intercession de n'importe quel autre saint. Ce pouvoir d'intercession est aussi un pouvoir de reine, parce qu'en priant pour nous, elle travaille à l'extension du royaume de son Fils. Et c'est enfin un pouvoir de reine, parce qu'elle est en communion totale avec les pensées du roi, son fils. Elle partage toutes les sollicitudes de notre Seigneur pour nos âmes, pour l'Église, pour nos pays. Et elle est tellement unie aux pensées de notre Seigneur qu'elle lui demande ce qu'il a prévu de lui accorder à sa prière. C'est pour ça que sa prière est toujours infaillible. Mais si la Vierge Marie se tourne vers son Fils pour implorer les grâces dont nous avons besoin, c'est avec un cœur de mère. Car cette reine, qui est la mère du Christ roi, est en même temps la mère de tous les sujets du Christ roi Jésus. Et elle implore son Fils avec d'autant plus de force que ses enfants lui ont coûté bien des douleurs le Vendredi Saint. C'est pourquoi sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait que Notre-Dame est plus mère que reine. Mais quelle consolation en même temps pour cette mère d'avoir les pouvoirs d'une reine pour venir au secours de ses enfants. Les grâces que Notre-Dame a obtenues de son Fils par son intercession, elle les distribue ensuite à ses enfants en temps opportun et selon leurs besoins, comme sait le faire une bonne mère de famille. Bien sûr, tout cela ne se fait pas sans notre coopération. Pour travailler, la Vierge Marie a besoin de nos prières. Et le grand reproche qu'elle fait aux chrétiens d'aujourd'hui dans son apparition de la rue du Bac, c'est que beaucoup de grâces ne sont pas accordées, tout simplement parce qu'on oublie de les demander. Que cette constatation vraiment désolante nous encourage à prier Notre-Dame avec davantage de ferveur, surtout dans notre chapelet, et quand même un chapelet par jour, pas seulement une ou deux dizaines. Cet après-midi, pendant la procession en l'honneur de la Vierge Marie, nous renouvellerons la consécration de la France à Notre-Dame, faite par le roi Louis XIII le 10 février 1638. Cet acte du pieux roi avait une portée théologique. En donnant au monde son roi, la très sainte Vierge devenait reine du monde, reine des nations. Il est donc normal que les nations la reconnaissent et l'honorent comme telle. Et c'est pour elle, pour ces nations, le seul principe de prospérité. Et si en raison du laïcisme actuel, les autorités civiles se refusent à de tels actes, eh bien c'est à la partie restée chrétienne de la nation de rendre ce culte, de le continuer envers et contre tout, pour que la Vierge Marie continue à être honorée publiquement dans notre pays. Oui, aujourd'hui, le royaume de notre reine est dévasté. Soyons alors les serviteurs fidèles qui gardent son domaine, en attendant son retour, qu'elle a annoncé à Fatima, en promettant le triomphe de son cœur immaculé. Et pour que la flamme de la foi et de la dévotion au cœur de Jésus et de Marie ne s'éteigne pas dans notre terre de France, gardons-la bien vivante d'abord dans nos cœurs et puis transmettons-la aux jeunes générations. Que les parents chrétiens apprennent à leurs enfants qu'ils ont au ciel une mère et une reine. Que des maisons des chrétiens s'élèvent chaque jour vers Notre-Dame, la prière du chapelet pour louer notre reine et pour lui demander fidélité et persévérance. Demandons ces grâces au cours de cette messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.